des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Rayon gamma, facteur epsilon. Dominus Johannis Focus, salué. C'est en ces termes que je salue bien sûr Monsieur Jean Foyer.
Bonjour madame.
Alors Jean Foyer, on ne vous présente plus évidemment, mais enfin je vous présente quand même. Vous êtes docteur en droit, agrégé de droit, spécialiste de droit international. Vous avez aussi commencé votre longue carrière politique, ce qui n'est pas neutre dans notre émission, au ministère de l'Éducation nationale. Et plus qu'un autre, vous savez le rôle que peut jouer le latin en Europe. Alors, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui...
Vous pouvez y ajouter une chose d'ailleurs, c'est que j'ai une certaine connaissance du chant grégorien.
Oui, nous avons fait une émission avec vous sur le chant grégorien. Et d'ailleurs, vous aviez dit une chose tout à fait extraordinaire. Vous aviez dit que l'Europe pourrait se définir en grande partie par le latin et par le chant grégorien. Alors, où en sommes-nous de l'Europe?
Oui, ben, on ne la voit plus.
Bon, enfin, il peut se définir aussi par la mythologie, puisque c'était une dame enlevée par Zeus. Alors, est-ce que dans le latin, déjà pour parler du latin, est-ce que les locutions latines et tout ça, ce sont des expressions, finalement, là je joue l'avocat du diable, consacrées, un peu folkloriques, ou est-ce que le fait d'apprendre, comme aujourd'hui on continue à le faire quand même, aux étudiants en droit des locutions latines reste essentiel?
Moi, je crois que ça reste très utile parce que ces locutions latines sont très faciles, très commodes à apprendre et à retenir, et qu'elles expriment un certain nombre de notions ou de règles avec une concision que malheureusement les langues modernes ne possèdent plus.
Et elles supposent aussi des situations, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en deux mots...
En deux mots, vous pouvez régler le problème. Il y a un certain nombre d'inscriptions latines, même encore récentes, qui sont tout de même assez remarquables par leur concision. Il y a un mot, une expression qui m'avait toujours frappé, c'était celle que les Allemands avaient porté sur leur monument aux morts après la Première Guerre mondiale. Elle consistait en trois mots. In victis, victi, victuri. Aux invaincus, les vaincus qui seront vainqueurs. Ben, il était difficile d'énoncer cette pensée-là en une forme plus concise et plus forte que cette expression latine.
C'était à quelle date?
Oh, ça a été en fait 14? Vers 1920 et quelques.
Ah oui, donc c'était prémonitoire d'ailleurs. Enfin, c'était non, pas prémonitoire. Heureusement pour nous, pas prémonitoire.
Donc, ça n'a pas été totalement prémonitoire. Mais ça n'est pas resté, en tout cas.
C'est prémonitoire pour l'économie européenne, mais enfin, pas tout à fait pour la guerre, heureusement. Alors, vous avez vraiment tout fait, vous. Alors, député, maire, maire, sénateur, juge, membre de la commission des lois, ministre. Parallèlement, vous n'avez jamais cessé d'enseigner, ce qui est intéressant, parce que vous auriez pu vous contenter de tout ça. Pourquoi vous avez continué?
Non, ben j'ai cessé d'enseigner tout de même pendant la période durant laquelle j'étais ministre, parce que ce n'était vraiment pas possible que je fasse mon cours en même temps. Mais alors, avant et après, ben j'ai bénéficié d'une disposition qui date de la Deuxième République, de 1848. C'est elle qui avait inventé l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction publique, parce que le gouvernement de Louis-Philippe avait beaucoup abusé du cumul en faisant élire des sénateurs, des préfets et autres, qui se montraient évidemment très, très compréhensifs du gouvernement, qu'ils continuaient à servir d'ailleurs à la tête de leur département. Et alors la loi de 1848 avait excepté de cette incompatibilité deux catégories de personnes. D'une part, les ministres des cultes reconnus, qui, d'après le concordat, recevaient une rémunération de l'État, étaient nobles, etc. Et d'autre part, les professeurs titulaires de chaires données au concours ou sur présentation du corps auquel ils appartenaient. Alors, comme j'étais professeur titulaire de faculté de droit, j'avais la possibilité de continuer à faire mon cours tout en étant parlementaire. Alors, quand j'ai quitté le gouvernement en 1967, eh bien, finalement, j'ai repris mon cours à la faculté de la place du Panthéon et je l'ai faite jusqu'à l'âge de sa mise à la retraite.
Et tout en écrivant, alors vous avez aussi rédigé le code civil.
Oh, j'ai rédigé le code de procédure civile. Enfin, ouais. J'ai fait des tas de choses. Mais j'ai fait les choses, on va dire, très consciencieusement, car à la faculté de Paris, je n'ai pas manqué une heure de cours pendant toute la période où j'ai cumulé cet enseignement avec l'appartenance au Parlement.
Et alors, selon vous, vous qui êtes le spécialiste par excellence, est-ce que nous passer de l'étude du droit romain, du passé romain, de notre imaginaire européen que nous partageons tous d'ailleurs dans les pays d'Europe, est-ce que ça serait nier l'Europe finalement? Parce que je ne parle pas seulement de la France d'ailleurs, je parle au fond, on parle beaucoup de droit international aujourd'hui, je parle aussi du droit international européen.
Oui.
Du droit européen.
Mais écoutez, je crois que c'est une mauvaise chose d'abandonner le latin, parce que si on abandonne le latin, on abandonne du même coup l'étude du droit romain, ce qui est une mauvaise chose.
Pourquoi ça serait une mauvaise chose pour
Mais parce qu'en grande partie, les concepts juridiques dont nous nous servons, et bon nombre de règles juridiques qui proviennent toujours du droit romain. Je ne vais pas reprendre le langage solennel de D'Aguesseau à propos du droit romain. D'Aguesseau, dans son discours sur la science du magistrat, a fait un très grand éloge du droit romain en disant « Toutes les nations l'interrogent, et chacune en reçoit des leçons d'une éternelle vérité qui sont les plus sûrs interprètes de nos lois. » Ça va peut-être un petit peu loin. Enfin, je crois que c'est très précieux. Au fond, le problème du droit romain, c'est une fraction d'un problème beaucoup plus général dont Dieu sait qu'on a entendu parler à propos des terres européennes, c'était la question des racines. Ben, incontestablement, le droit français plonge ses racines dans le droit romain et que si les racines ne plongent plus dans un terreau vivant, eh bien, à partir de ce moment-là, l'arbre dépérit.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer un nouveau droit, comme certains le souhaitent, au carrefour de...
Bon, dans une certaine mesure, oui. Il a quand même une certaine concurrence aujourd'hui, parce qu'on a introduit, on a imité, on a introduit des règles du droit américain, par exemple. Enfin, ce n'est pas toujours extrêmement cohérent. Et pour ma part, j'estime, enfin, c'est une question d'habitude, sans doute, que le recours et l'usage du droit romain est tout de même très supérieur.
Mais alors, par exemple, l'archevêque de Canterbury vient de faire scandale en disant qu'il faudrait mettre un petit saupoudrage de charia dans le droit romain. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que les droits, en général, est-ce que les droits sont compatibles les uns avec les autres?
Pas tous. Moi, je ne connais pas bien le droit musulman. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de rapports quand même entre la technique du droit musulman et celle du droit romain dont nous avons été nourris par notre enseignement.
Mais alors vous avez fait un discours sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Hein, et l'ordonnance de Villers-Cotterêts, bah, c'est quand même la mort du latin, d'une certaine manière, puisque ça a été l'avènement du français. Je rappelle qu'il s'agit du 10 août 1539, enfin pour les gens qui l'ont oublié, et que le roi François Ier donc signe une ordonnance de 192 articles. Il a imposé le français. Est-ce que c'était déjà quelque chose d'utile?
Oh, ben écoutez, c'était déjà assez répandu. En fait, il a généralisé des pratiques qu'il n'avait précédées depuis très longtemps. Là, il ne faut pas dire de mal de l'ordonnance Villers-Cotterêts. C'est quand même essentiel que les sujets de droit comprennent les obligations auxquelles ils sont soumis. Or, il est de fait que la majorité des Français, même en 1539, ils n'avaient jamais étudié le latin, ils ne comprenaient rien. Le latin, ils l'avaient entendu à la messe quand ils y allaient, mais c'était pas leur langage ordinaire, et par conséquent, c'était tout à fait naturel d'avoir adopté à partir de ce moment-là le français. Il y en a d'autres qui l'ont conservé plus longtemps que nous. Je crois que ceux qui ont été attachés le plus longtemps au latin sont les Hongrois. La Hongrie a abandonné le latin pour le texte de ses lois et des décisions de justice en 1848.
Oui, oui. Et vous savez que même aujourd'hui, il y a beaucoup de sites internet à l'Est en latin.
Mais
hein? C'est-à-dire que l'Est a l'air de combattre l'anglais, le pidgin anglais, par du latin. Ils s'échangent ils parlent latin,
oui.
Couramment. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des groupes de latin vivants maintenant.
De la part des pays de l'Est, c'est la réaction à l'influence des États-Unis.
Oui.
Enfin, le latin, c'est quand même une chose utile. Je m'en suis servi moi-même dans une circonstance. Je crois que ça doit remonter en 1967. On m'avait fait un honneur. J'avais été fait docteur honoris causa de l'université d'Oxford. Et alors, il a fallu que j'aille recevoir les insignes de mon grade, et ça se passait au cours d'une cérémonie très solennelle, quasi liturgique, avec le chancelier en robe assis sur un trône qui vous imposait le bonnet à quatre cordes sur la tête. Et alors, un professeur du lieu prononçait votre éloge, et ensuite, il fallait faire une réponse. Moi, j'ai été très embarrassé par cette réponse, parce que je dois dire que je n'ai jamais eu disposition à parler anglais. C'est une langue qui me déconcerte parce qu'elle ne se prononce pas comme elle s'écrit. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire si je parle anglais? Je vais être possiblement ridicule. Si je parle français, on va trouver que dans la circonstance, je suis d'un nationalisme déplacé. Alors, j'ai fait mon discours de remerciement en latin.
Et vous parlez couramment latin?
Oh, couramment, peut-être... Bon, mais enfin, je crois que je suis quand même capable de le comprendre et de le parler correctement. Dans la circonstance, je crois que le mien était tout à fait convenable.
Est-ce que vous parlez quelquefois avec d'autres latins? Parce que vous savez qu'il y a des groupes anglo-saxons en particulier, ou allemands, qui se réunissent maintenant pour parler latin pendant une semaine, pour faire ce qu'ils appellent...
Ah, ben, non, je n'ai jamais participé à un exercice de ce genre-là, mais je devrais peut-être... l'essayer ainsi.
Ça serait assez amusant, je pense. Qu'est-ce qu'il y a sur votre épée d'académicien?
Oh, il y a toute une série d'inscriptions. Elles sont toutes en latin, d'ailleurs.
Ah, voilà.
Oui.
Alors, dites-nous lesquelles, si vous vous en souvenez. Au moins une.
Le pire, si je m'en souviens pas très, très bien. Ben, si, il y a gravé sur la lame de mon épée les diverses fonctions que j'ai exercées. On raconte que j'ai été professeur, que j'ai été maire de ma commune natale, que j'ai été garde des Sceaux,
vous
etc.
Vous êtes né comme du Bellay, près du Petit Liré ou quelque part par là,
oui,
dans le Maine-et-Loire.
Oui, moi, je suis à l'intérieur des terres. Je ne suis pas né sur le bord de la Loire.
Ah, oui, oui, oui.
J'ai quand même une partie de ma famille qui venait des bords de la Loire, mais un peu en amont.
Et donc, votre épée est écrite en latin.
Oui, oui, elle est en latin.
Donc, c'est en latin encore. Alors, vous êtes membre de l'Académie pontificale Pro Vita, Pro Vita. Nous parlions tout à l'heure de la difficulté de garder tout en latin pour les gens qui n'y comprennent rien. Eh bien, l'Église a eu la tentation de revenir aux langues, disons, du pays. Ouais. Et puis, on revient maintenant au latin. Car on s'aperçoit quand même que c'est une langue universelle.
C'est une langue universelle. Et quand vous réunissez des gens de nationalités différentes qui parlent des langues différentes, qui ne se comprennent pas entre eux, c'est encore plus simple de les faire chanter un texte en latin que de leur demander de chanter dans des langues différentes.
Vous chantez vous-même en grégorien?
Ah oui, oui, j'étais assez fort en chant grégorien. Je ne vais pas le faire à votre bifo, parce que
Moi,
je suis un petit peu enroué aujourd'hui. Enfin, si ça me revient, mais enfin, je crois quand même que je le connais pas mal.
Un début.
Spiritus Domini, replevitorem terrarum, alleluia.
Vous avez une voix superbe.
Je pourrais vous en chanter longtemps.
Enfin, ça, je veux bien, mais enfin bon, on ne peut pas quand même. Alors, vous parlez aussi beaucoup du terme grec agapé. L'agapé vous semble une notion extrêmement forte en Europe, en Occident.
Oui, oui.
C'est un terme grec, donc, qui veut dire l'amour.
C'est
hein.
un terme, oui, mais c'est un amour qui n'est pas charnel.
Voilà, oui. C'est l'amour que nous ne connaissons plus aujourd'hui.
Oui.
Bon, alors vous avez été spécialiste de l'Afrique.
Bon, j'ai été chargé de faire les opérations de décolonisation.
Oui.
De conclure avec les pays d'Afrique noire et Madagascar, les accords d'indépendance et les accords qui définissaient leurs relations avec la France après l'indépendance.
Et est-ce que dans le droit, il y a des héritages aujourd'hui encore?
Oh ben oui, oui, oh non, oui, au contraire, on leur avait introduit le droit français et finalement, ils font un effort pour le conserver. Finalement, ils n'ont pas du tout abandonné la tradition juridique française. Une zone dans laquelle elle est restée en vigueur.
Vous parlez moins de la Grèce.
Parce que je m'en suis moins occupé.
Est-ce que pour vous, les Grecs, enfin nous en sommes les héritiers nécessairement via les Latins, mais est-ce que quand même nous n'avons pas, dans ces racines européennes, nous avons quand même aussi la Grèce, bien sûr, par Rome, et puis le courant hébraïque, c'est-à-dire nous avons les deux courants contradictoires souvent.
Quelquefois, oui, mais enfin, les textes hébraïques, on ne s'en sert qu'en traduction.
Oui.
Et des traductions qui ne sont pas tout à fait littérales. S'il y a un auteur qui a fait une traduction de la Bible, qu'il a faite sur l'hébreu, c'est André Chouraki. C'est une très belle traduction, mais il faut dire que, comme elle est très fidèle à l'hébreu, elle est un peu déconcertante pour nous. Alors pour ce qui est du grec, on ose à peine en parler, car il y a une personne appartenant à l'Institut qui en parle d'une si belle façon qu'on a honte d'en parler après elle, c'est Mme de Rumilly.
Elle est la marraine du festival.
Oui. Je viens de lire d'ailleurs un article d'elle tout à fait remarquable dans la revue Géopolitique, qui ont fait un numéro récemment sur les langues et le pouvoir, ou quelque chose comme ça. Ça débute par un article de Mme de Rumilly, qui, comme tous ses écrits, est tout à fait remarquable.
Est-ce que vous discutez avec elle, quelquefois, de l'Antiquité gréco-latine?
Oh, ben, quand je la vois, parce que je ne la vois pas très fréquemment, puis j'ai adhéré à l'organisation qu'elle avait fondée.
La sauvegarde des enseignements
oui, la SLAF.
Littéraires.
Oui. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est tout à fait admirable.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Marguerite Yourcenar fut la première femme écrivain élue à l'Académie française. Canal Academy consacre 4 grandes émissions aux différents aspects de son talent, son œuvre romanesque, son érudition et son travail de traductrice. Marguerite Yourcenar, une citoyenne du monde, 4 émissions sur Canal Academy.
Rayon Gamma, facteur epsilon, nous reprenons notre entretien avec Jean Foyer. Jean Foyer, vous avez commencé quand même à l'Éducation nationale. Vous avez dû garder quand même un œil sur ce qui se passait, surtout que la justice maintenant est en étroite connexion.
Oui,
avec
mais
ce
vous savez, à l'Éducation nationale, j'étais un personnage tout à fait modeste. J'y suis allé dans les conditions suivantes. René Capitan était ministre de l'Éducation nationale. À la fin du mois d'août 1944, le gouvernement d'Alger se transporte à Paris. René Capitan s'en va déjeuner chez l'un de mes maîtres de la faculté de Paris, qui a été membre de l'Académie des sciences morales et politiques, un personnage illustre qui était le professeur Lebras. Et Capitan lui dit, à Paris, j'avais presque personne autour de moi, il faut maintenant que j'étoffe un peu mon cabinet, et qui demande à Lebras de lui suggérer des noms. Et alors, pendant la période précédente, moi j'avais été un porte-journaux clandestin, j'ai rempli un certain nombre de tâches sous la conduite de Lebras, qui lui a dit, il y a le jeune Foyer là que vous pouvez embarquer. Alors, le capitaine m'envoie chercher par le professeur Lampuy et me propose d'entrer dans son cabinet. J'y suis resté pendant 18 mois. Mais à la vérité, je dois dire que je n'ai pas eu à cette époque-là à m'occuper beaucoup de la pédagogie. J'ai eu à m'occuper de tâches qui, pour certaines, n'étaient pas des plus charmantes, notamment de recevoir les dossiers d'épuration qui avaient été traités par une commission d'épuration et ensuite d'aller lui faire signer après les avoir lus en lui donnant mon avis. Alors ensuite, ça a été un peu mieux parce que j'ai fait le même travail avec la réintégration des fonctionnaires qui avaient été sanctionnés, éliminés par Vichy, où j'ai concentré également les dossiers pour les présenter au ministre. C'est ça qui a été surtout ma tâche.
Oui, c'est ça. Donc, vous étiez plutôt du côté du droit.
Pendant que j'étais auprès de lui.
Mais en tant que ministre de la Justice, vous avez bien dû quand même avoir un œil sur les enfants.
Oui, mais enfin, il faut dire que pendant cette première période, ça va de septembre 1944 à janvier 1946, on n'a pas opéré de grands bouleversements pendant cette période-là en ce qui concerne les études. On n'a causé aucun dommage au latin, ce qui aurait d'ailleurs été difficile dans la circonstance, parce qu'en même temps que moi, Lebras avait recommandé au ministre d'embaucher Jean Baillet, qui était à l'époque le patron des lettres latines à la Sorbonne, et qui, bien entendu, n'a pas contribué à ce moment-là à une élimination du latin.
Mais vous, à l'école, vous aviez fait du latin et du grec. À l'époque,
bien entendu.
On ne séparait pas. Oui, mais vous dites bien entendu. Mais l'un des désastres d'aujourd'hui, c'est qu'on sépare les deux. On fait du latin ou du grec.
Oui, mais moi, j'ai fait les deux.
Est-ce que vous, vous estimez que finalement, ça donne un bagage, une armature mentale aux gamins? Ou est-ce que, mon Dieu, comme a dit un ministre récemment, est-ce qu'il ne faut pas que l'anglais se devienne la deuxième langue vivante, quoi? Pas la deuxième langue, la vraie langue.
Notre langue ne vient pas de l'anglais. C'est l'anglais qui nous a emprunté un certain nombre de termes.
Et au latin. L'anglais, l'habeas corpus.
Oui, oui, mais enfin. C'est bien. Mais alors, les Anglais, la plupart du temps, quand ils se servent des termes anciens, qu'ils se soient des termes latins ou même quelquefois des nôtres, ils les prennent dans un sens différent de celui que nous leur donnons. Alors, ça ne facilite pas la compréhension et la conversation. Ça ne signifie pas la même chose dans leur langue. Mais, c'est-à-dire
Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français?
C'est tout à fait explicable. Finalement, la tradition, les Anglais ont emprunté beaucoup de choses à l'ancien droit normand, au droit coutumier normand. Et ils ont un langage juridique qui emploie des termes qui viennent du droit féodal en leur donnant le même sens qu'autrefois, alors que nous autres, nous avons pratiquement totalement latinisé notre langage et retenu les termes latins, au fond, dans le sens qu'ils avaient, car les latins ne connaissaient pas le système féodal.
Est-ce qu'il y a des droits que vous avez compris parce que vous avez fait du latin, des droits étrangers, des droits européens? Vous vous êtes dit, tiens, c'est intéressant parce que vous compreniez de quoi c'est...
Il y a des droits étrangers qu'on comprend très facilement. Par exemple, on s'accommode très bien du droit italien.
Oui, évidemment.
Parmi les droits qui ont beaucoup emprunté aux Romains, mais là-dessus, ouais, je dirais que je ne suis pas de première force du tout dans ce domaine, ce sont les Allemands. Les Allemands, quand même, ils ont reçu le droit romain au XVIe siècle. Et le code civil allemand de 1900 a quand même été fait largement à partir du droit allemand, du droit romain.
Donc, il est très difficile, au fond, de comprendre l'Europe, encore une fois, s'il n'y a pas des bases latines.
Ben non, il y a une Europe. En réalité, c'est l'Atlantique qui fait la séparation. Il y a ceux qui sont à l'est de l'Atlantique, qui ont une formation essentiellement romaine, et puis les Anglais qui en ont une qui est différente.
Oui, c'est ça.
Et qu'ils ont passé aux Américains.
Oui, pour vous, c'est ça la scission.
Bon, c'est ça la limite. Ça me fait penser à un mot du général de Gaulle. Le général de Gaulle était interviewé par quelqu'un qui lui a dit « Quels sont, à votre avis, les plus grands auteurs, les plus grands écrivains européens ?» Alors, le général a répondu « C'est Dante, c'est Goethe et c'est Chateaubriand. » Et alors, l'intervieweur lui dit « Mais j'étais étonné que vous n'ayez pas cité Shakespeare. » Et le général a répondu « Mais vous m'avez demandé de citer des Européens.
» Oui, bien sûr. Bon, et alors quand vous avez parlé, à un moment donné, vous avez fait un discours, je crois que c'était pour le prix au fouet de Boigny ou quelque chose de ce genre, et vous avez cité un poète de l'Antiquité tardive, est-ce que vous vous rappelez ça? Rutilius Namatianus.
Oui, oui.
Qu'est-ce que
je lui ai fait dire?
Vous lui avez fait dire qu'il adressait à la vieille Rome cet éloge sublime qu'au Sénégal, terre humaniste, j'oserais citer en latin, disiez-vous. Est-ce que vous pouvez encore le citer de mémoire en latin?
Le texte, qu'est-ce que c'est?
Je vous le dis en français. D'ethnie diverse, tu as fait une patrie. Ça commence par patriam fecisti.
Oui, ça doit être divers. Diversis gentibus unam fecisti patria.
Voilà, ce n'est pas tout à fait l'ordre, mais c'est
mais
ça.
C'est
exactement.
Ça.
Ça. Bravo, monsieur.
C'est une belle phrase. Ça.
C'est une belle phrase. C'est vraiment une belle phrase qui pourrait d'ailleurs être une devise aujourd'hui pour nous. Bon, si vous aviez vraiment un souhait pour la formation des enfants, d'après tout ce que vous avez vu, d'après tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce qu'il ne faut pas abandonner en Europe? Qu'est-ce qui serait la fin de l'Europe? Bon, pas seulement le latin, évidemment, on ne va pas s'accrocher au latin comme un bout de bois. Quel est le sens profond, à votre avis, de l'Europe par rapport, là, je vous rappelle la phrase de Berle, par exemple. Berle, dans son livre sur l'Europe, disait que l'Europe n'existe pas. Elle est sur un continent qui s'appelle l'Asie et que c'est un tout petit bout de la queue de l'Asie vers l'Ouest. Et que, justement, son identité lui viendrait de son âme, disons, enfin, de son esprit. Alors, je ne sais pas si vous avez la même idée que Berle de l'identité de l'Europe. Qu'est-ce que c'est être européen? On en parle tellement aujourd'hui et tout ça se réduit à un euro. Est-ce qu'on meurt pour un euro, pour un drapeau? Et qu'est-ce que serait le drapeau?
On peut mourir pour un drapeau. Bon, il ne faut pas mourir pour un euro.
Voilà. Alors, quel serait le drapeau?
Le drapeau, c'est quand même l'ancestrale appartenance à l'Empire romain. Et puis après, ça a été la christianisation. C'est pour ça que la querelle à propos des racines chrétiennes de l'Europe et des plus contestables et choquantes, il ne faut pas nier les réalités.
Oui, c'est-à-dire que Valéry disait qu'on entre dans l'avenir à reculons. Vous seriez d'accord?
Je crois que ça me paraît une évidence.
Merci Jean Foyer. C'était Rayon Gamma, facteur epsilon avec Jean Foyer.